Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'aventure dans les mers du Sud, sur les pas de Friedrich Murnau et Robert Flaherty, avec Bernard Eisenschitz, Yves de Peretti et Michel Simon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, France Culture vous propose de partir dans toutes ses émissions sur les traces des explorateurs. Plan Large ne pouvait manquer de participer à cette vaste programmation. Déjà parce que de toute façon, tout grand cinéaste est un explorateur. Tout art est une sorte d'exploration. Découvrir et révéler est la manière de travailler de tout artiste. Les explorateurs sont les transformateurs du monde. Ils découvrent pour nous une nouvelle image. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert Flaherty, et il savait de quoi il parlait. Explorateur, il l'avait été, trappeur, prospecteur, pionnier de l'exploration des territoires nordiques et de l'invention d'un genre, le documentaire, et de ses rapports troubles et troublants avec la fiction. Explorateur, Friedrich Murnau l'était indubitablement, des potentialités de son art, le cinéma muet qu'il avait, disait Charlie Chaplin, porté à un point de perfection absolue. Que pouvait donner la rencontre d'un Irlandais d'origine, chaleureux, expansif et autodidacte, mais riche de son expérience du monde, et d'un Allemand froid, distant et extrêmement cultivé. Quand Nanook l'Esquimau rencontre Nosferatu, ça donne un film, bien sûr, et quel film ? Tabou, le plus beau film du plus grand cinéaste du monde, selon Éric Rohmer, sort en DVD Blu-ray dans une très très belle copie restaurée par la Fondation Murnau, avec réintégration des scènes coupées par la censure, et l'histoire même de sa fabrication ferait un film extraordinaire pour nous le faire rêver aujourd'hui dans Plan Large. L'historien, critique de cinéma, restaurateur de films, traducteur et j'en passe, Bernard Eisenschitz, et le documentariste Yves de Peretti, qui dans Tabou, dernier voyage, était retourné il y a 20 ans sur les lieux de tournage du film en Polynésie française, où quelques fantômes étaient venus à sa rencontre. Michel Simon, qui s'y connaît parfaitement en Tabou, est également avec nous. En fin d'émission, il nous parlera de deux autres grands cinéastes explorateurs, Marianne C. Cooper et Ernest B. Schoetzack, à l'occasion du roman de leurs aventures que signe Michel Lebris, Kong, et de l'édition en DVD de deux de leurs saisissants documentaires d'avant King Kong, Grâce et Chang.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Norman J. Brown with the Columbia Broadcasting System. Tonight we're broadcasting the gala opening of Fred Murnau's last film, Tabu, from the Central Park Theater in New York. No one would miss that rapturous romance from the South Sea Islands. There he is, Florence Ziegfeld. Get a good look with his wife. I've been told he is interested in the young Polynesian actress, Rary, for his new Follies. Here comes Adolf Zukor, the president of Paramount Pictures, who is releasing the film. Only Fred Murnau, the director, is missing. He was killed 1 week ago on the West Coast in an automobile accident.
Tout le monde est là pour la première de Tabou à New York le 18 mars 1931. On repère dans la foule le mania des spectacles à Girls de Broadway, Florence Ziegfeld, qui a déjà des vues sur la jeune star du film, la belle Rary, qu'il verrait volontiers lever la jambe dans ses Ziegfeld Follies. Le patron de la Paramount, Adolf Zukor, est là aussi, bien entendu, c'est lui qui distribue le film. Ne manque que Fred Murnau, depuis qu'il est devenu un cinéaste hollywoodien, et pour cause, il s'est tué sur la route dans un accident de voiture. mur une semaine avant. Fin tragique et prématurée à 42 ans pour le génial auteur en 12 ans de carrière de 21 films, dont plus d'un tiers sont perdus aujourd'hui. Von Hauss est bien sûr Nosferatu, Faust, Le Dernier des Hommes, L'Aurore. Avant qu'on parle de Tabou et de sa rencontre avec Robert Flaherty, il faudrait peut-être rappeler Bernard Eisenschitz. Qui est Murnau à ce moment-là et ce qu'il représente avant de partir dans les mers du Sud?
À ce moment-là, Murnau est un cinéaste qui a fait donc une vingtaine de films. Ce sont les premiers qui sont perdus et qui est connu à l'étranger, qui est connu aux États-Unis, surtout à partir du Dernier des Hommes, et qui prépare son passage aux États-Unis en tournant encore Faust avec un énorme budget. Et il arrive aux États-Unis comme le génie allemand, comme beaucoup de génies allemands arrivent aux États-Unis à l'époque, allemands ou suédois.
Oui, c'est une tradition hollywoodienne d'aller chercher en Europe.
C'est un moment particulièrement fort de ce passage. Et il tourne l'Aurore avec carte blanche absolue. Les films suivants, ça se passe très mal, d'une part parce qu'on considère qu'il dépense trop d'argent. C'est la fin de l'époque des démiurges qui ont tout pouvoir sur leurs films. C'est surtout le passage au sonore. Ces deux films suivants sont réadaptés pour les transférer au sonore. Des scènes sont ajoutées en son absence. Et il décide à ce moment qu'il ne peut plus travailler avec le studio. Ça a toujours été l'homme des studios. Il a toujours travaillé dans un artifice complet, mais c'est pas complètement vrai non plus, puisque Murnau était le premier à l'époque de l'écran démoniaque, disons, à sortir dans la nature, par exemple dans Nosferatu, qui est un film tourné en extérieur. Il a voulu tourner dans un champ loin de Hollywood pour City Girl, et il a l'envie de sortir, de quitter ce système, de quitter ces lieux, et d'aller, alors comme il dit, vers ses livres et ses rêves. C'est-à-dire, ce n'est plus à l'époque, ce n'est plus comme au XIXe siècle, le voyage en Italie ou en Grèce, pour les romantiques allemands, c'est la Polynésie.
Alors c'est paradoxal, parce qu'il est parti à Hollywood, parce qu'on lui donnait, vous l'avez dit, des moyens illimités. Quand il était en Allemagne, c'était le règne du bricolage, mais en même temps une liberté d'inventivité permanente. Pourquoi ça lui pèse autant, le système des studios, à ce moment-là?
Tout simplement parce qu'en Allemagne, il pouvait faire ce qu'il voulait, et aux États-Unis, à partir de du moment où L'Aurore est un énorme succès critique et un succès public moyen, on lui demande de restreindre ses exigences. L'idée, par exemple, d'acheter un champ dans l'Oregon, je crois, et d'assister aux quatre saisons, d'assister à la croissance du blé, etc. Bon, c'est complètement mis de côté. Et puis ensuite, il y a le passage du parlant, l'arrivée de l'idée des producteurs, qui existait beaucoup moins au muet, qui existait, mais en général, on avait affaire au directeur du studio. Il se retrouve avec des intermédiaires qui ne s'intéressent absolument pas au talent du génie allemand. Bon, il y a un moment où il n'en peut plus, et c'est là que se passe la rencontre avec Flaherty. Ils sont d'accord sur une chose, le travail dans ce système-là est impossible, et un retour à la nature est ce dont ils ont envie tous les deux.
Alors parlons, leur point de contact. Parlons de Robert Flaherty. Flaherty, je l'ai dit tout à l'heure, a une vie tout à fait extraordinaire avant même qu'il passe au cinéma. Et puis il a l'énorme succès de Nanook l'Esquimau, 1919, hein, il me semble. Et là, lui-même a beaucoup de mal à s'adapter au système des studios. Pourtant, il essaye.
Flaherty a 50 plus que Murnau, je crois, 5 ou 4 ans, et il a tourné Nanook en complète liberté, tout seul, pratiquement, tourné, monté. Le film a eu cet énorme succès. Paramount lui a proposé de l'argent pour tourner Moana, à Samoa, c'est-à-dire plus à l'ouest que là où va être tourné Tabou. Après le demi-succès de Moana, les choses se sont très mal passées, c'est-à-dire il a commencé à travailler pour les studios et il s'est passé ce qui va se passer avec Tabou, ce qui va se passer ensuite avec Elephant Boy au milieu des années 30, c'est-à-dire on lui a proposé de co-réaliser un film dans le système des studios, Ombre Blanche. Il est allé à Tahiti et puis il a commencé à vivre sur place, ce qui est la manière de travailler de Flaherty. On s'imprègne du lieu, on connaît les gens, il est très liant, il aime raconter des histoires, il adore les écouter. Et son idée, c'est surtout que les films servent à raconter des histoires qui expriment le lieu. Bon, pendant ce temps-là, l'équipe américaine avec Van Dyke est arrivée, ils ont commencé à tourner le film, qui a un scénario hollywoodien assez classique. Le film a été tourné et Flaherty s'est aperçu à un moment qu'on n'avait plus besoin de lui. Il est reparti en maudissant Hollywood et les Juifs, comme il va maudire ensuite les Allemands avec « Quand Tabou tournera mal ». Et « Ombre blanche », qui est d'ailleurs un très beau film, mais...
Qui n'est pas celui que Flaherty aurait voulu faire, en tout cas.
Qui est tout à fait autre chose. Là-dessus, Fox lui propose de tourner un film sur les Indiens au Nouveau-Mexique. Pendant ce temps-là, Murnau tourne à ses déconvenues avec Fox également et fait venir David Flaherty, le jeune frère, qui travaille pour Fox et lui dit « J'aimerais faire un film avec votre frère, avec Robert Flaherty. » Et David lui répond « Mais non, il est en train de tourner un film sur les Indiens du Nouveau-Mexique, à Taos. » Et Murnau lui dit « Non, non, le film est décommandé, Fox interrompt. » Et à ce moment-là, donc mars 29, se retrouve, donc Flaherty revient et décision de faire un film en toute indépendance, avec leurs propres moyens, avec une petite boîte de production qu'ils vont chercher, avec un financement qu'ils vont réunir eux-mêmes. Rien à faire avec les studios.
Alors voilà, il s'associe, Murnau achète un yacht, part dans la direction Polynésie française, Flaherty, lui, prend la ligne régulière, et il se retrouve à Tahiti. Alors quand on regarde le générique de Tabou tel qu'on le découvre, pour certains en tout cas, dans cette édition DVD Blu-ray chez Potemkin et MK2, on voit un scénario, une histoire qui est co-signée, Murnau et Flaherty, et une réalisation qui est signée Murnau tout seul. Au départ, ça devait être un film co-réalisé, tout devait être fait ensemble, c'était l'idée, c'était le pacte entre Flaherty et Murnau, Bernard Eisenschütz.
Il faut d'abord dire une chose, c'est que dans Tabou, le film terminé, il n'y a pas un plan réalisé par Robert Flaherty. Bon, après ça, on peut revenir à l'histoire. Donc Flaherty arrive avant Murnau à Bora Bora, donc les îles sous le vent, à l'est, à 150 km à l'est de Tahiti, commence à faire des repérages. Murnau arrive plus tard et on attend les opérateurs et surtout l'argent de Color Art, la petite maison de production qui a financé le film ou qui a décidé de financer le film, qui a acheté un sujet qui s'appelle Touria et l'argent n'arrive pas.
Parlons-en, Touria, c'est une idée de Flaherty au Touria, départ.
Bah les deux idées, les deux films, les deux scénarios qui sont distincts sont des idées de Flaherty en conversation avec Murnau élaborées en commun. Ça sera le seul travail commun et le générique dit très justement une histoire racontée par Flaherty et Murnau.
Yves de Peretti.
D'ailleurs, ce qui est intéressant justement, c'est que bon, les historiens ont beaucoup discuté pour savoir de qui c'était la part. Je crois qu'il y a vraiment fusion de deux univers puisque c'est vrai que Tabou est très différent de Touria et ce qui a, à mon avis, déterminé cette différence, c'est deux choses. C'est d'une part, côté Flaherty, l'expérience qu'il avait eue justement à Acoma dans le film sur les Indiens, où il y avait déjà l'histoire d'un amour qui devait être... pour obtenir cet amour, il fallait faire une épreuve, ce qui est l'idée du Tabou. L'autre chose aussi, c'est que Murnau, comme il est venu en bateau... Il s'est arrêté dans les îles, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu directement, il s'est arrêté aux Marquises, puis au Tuamotu, dans différentes îles, et il a été imprégné par l'atmosphère polynésienne très forte, où le tabou est quelque chose qui existe.
Et alors, qui il faut est le dire, très tabou, le tabou, c'est l'interdit. Si on résume très rapidement l'histoire de tabou, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui s'aiment, Matai et Reri. Et puis Reri est déclarée tabou. Elle, c'est la vierge sacrée qui doit servir les dieux. Donc elle ne doit être désirée, n'avoir d'amour pour personne. Et ils s'enfuient tous les deux de Bora Bora à Tahiti. Et là, ils sont rattrapés par le tabou, par le double tabou d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, pour gagner de l'argent et réussir peut-être à s'enfuir, une zone qui est interdite à la pêche, parce qu'il y a un requin dangereux qui dévore les chasseurs de perles, et donc c'est le double tabou du film. Voilà, je résume très rapidement ce film. Je vous laisse continuer, Yves de Perret.
Oui, donc en fait, le voyage a permis à Murnau de s'imprégner vraiment, et il a trouvé dans le tabou quelque chose qui résonnait avec son propre univers. Hein, on a beaucoup dit que Tabou était un film qui était une sorte de remake de Nosferatu, en tout cas qui résonne très fortement avec Nosferatu.
Bah là, il faut être précis. En quoi ça résonne, ces deux films?
Tous les films de Murnau sont des films sur des interdits. Hein. Regardez, sur des films sur des gens qui sont séparés par la société, par l'univers. Faust, Tartuffe, même l'Aurore avec la femme de la ville, avec la différence entre l'univers de la ville, l'univers de la campagne. Dans tous les films de Murnau, il y a une fatalité tragique qui n'a rien à voir avec Flaherty. Le projet de Turia était, c'est-à-dire Flaherty a raconté l'histoire et puis Murnau l'a tiré vers lui.
Alors Flaherty, lui, veut faire un film en fait sur les assauts de la civilisation contre une société édénique, sur ces jeunes gens qui se font arnaquer.
C'était le sujet de Turia.
Et c'était le sujet d'Ombre Blanche.
Michel Simon.
Qui est le sujet d'Ombre Blanche. Turia, Ombre Blanche avait un héros blanc alors que Turia avait un héros polynésien.
On en trouvera encore des traces dans l'histoire avec ces commerçants chinois.
À la fin, avec les commerçants chinois.
Qui arnaquent les jeunes en leur faisant signer des reconnaissances de dette.
Il aurait été difficile de ne pas en parler, évidemment. Mais du coup, Tabou est orienté vers ce que dit Yves, l'univers de Murnau, qui est un univers tragique, un univers de fatalité, dont Flaherty n'a rien à faire.
Mais il y a quelque chose aussi de très mélancolique dans la démarche de Murnau. Il part vers un rêve, en fait. Il part vers ses lectures, celles de Stevenson, de Conrad. Il part peut-être aussi vers la peinture de Gauguin. Quand il arrive, il va se recueillir sur la tombe de Gauguin. Que cherche Murnau, Yves de Peretti?
Murnau était un romantique, d'une part, mais au sens du romantisme allemand, enfin, qui était imprégné vraiment de romantisme allemand, et d'autre part, c'était quelqu'un qui était très proche de la peinture. Je crois que une des qualités plastiques des films de Murnau, c'est qu'il avait intériorisé énormément de choses liées à sa connaissance. Il connaissait très bien toute la peinture. Donc, évidemment, il était fasciné par Gauguin, et il est allé à Tuona, donc dans l'île des Marquises où Gauguin est enterré, se recueillir sur sa tombe et rencontrer un petit peu cet univers qui l'avait frappé. Et il y a évidemment des résonances dans les plans de Tabou. Il y a des résonances pas uniquement de Gauguin, mais de
la peinture allemande aussi.
De peinture allemande, bien sûr.
Michel Simon.
Oui, je voudrais dire aussi que Murnau, c'est pas son nom. Son nom, c'était Plumpe.
Plumpe,
et
oui.
Peut-être aussi, c'est mieux de s'appeler Murnau. C'est le titre résonne mieux. Et c'est la petite ville où les grands peintres comme Kandinsky, Gabriele Munter, etc. avaient créé un mouvement pictural. Donc il avait choisi ce nom de Murnau. Mais je voudrais dire aussi qu'il me semble, c'est le côté allemand, romantique allemand, effectivement, comme vous l'avez signalé. C'est-à-dire la recherche d'un ailleurs. C'est-à-dire, ça peut être la Grèce, par exemple, les Allemands sont très, très entichés de la Grèce antique. Et puis, ça peut être encore plus, évidemment, la Polynésie, le paradis perdu. Donc, il y a une sorte de pulsion romantique. Et je voudrais ajouter aussi que peut-être cette idée de tabou qui parcourt toute l'œuvre, comme le disait Bernard Eisenschitz, c'est peut-être lié aussi à son homosexualité, qui est tout de même une chose peu acceptée dans les années 20, qu'il avait dû cacher, ne pas mettre en évidence. Et donc, il était sensible à ces interdits, justement, qui frappent les homosexuels. Et le film lui-même est très homo-érotique. Je pense que la façon dont il filme les jeunes gens... Il y a d'ailleurs un livre de photos qui a été publié en Allemagne, où on voit toutes les photos érotiques de jeunes garçons, qui est le même rêve homo-érotique de Eisenstein, un an plus tard ou deux ans plus tard au Mexique. Donc, il vit à Mexico, il filme les corps avec vraiment un désir extraordinaire.
«
Scène de bal dans Tabou avec ses plans de pieds absolument extraordinaires, pieds chaussés, pieds qui ne sont pas chaussés. Alors je vous vois, Bernard Eisenschitz, ne pas reconnaître la musique parce que quand vous regardez Tabou, vous coupez le son.
Je tique un peu parce qu'on sait que c'est la finition du film qui a été faite par Murnau. Il n'y avait plus d'argent, le film a été terminé donc avec l'argent de Murnau qui s'est endetté et qui a emprunté à ses amis, disons.
Alors voilà, mais là vous allez un peu vite, parce que il faut expliquer, donc c'est la crise de 29, Colorart abandonne le film, il n'y a plus d'argent, Murnau reprend la production et reprend de ce fait la direction du film. Flaherty, qui n'est pas vraiment d'accord peut-être sur le scénario, mais se trouve complètement évincé en fait de ce film. Il est opérateur, et puis très vite on fait venir un opérateur qui est, rappelez-moi son nom,
Floyd Crosby. Ça n'a jamais été... Flaherty a commencé comme opérateur. Il y a eu... Bon, des opérateurs de Color Art sont passés et repartis. Wilkie, je crois. Et Flaherty a repris comme opérateur. Mais ça a toujours été sous la direction de Murnau. On peut voir en ligne très facilement 10 000 mètres de rush de Tabou. Regardez les plans avec les claps. Il y a toujours le nom de l'opérateur. Beaucoup de claps sont... nomme Flaherty comme opérateur, et si vous regardez, c'est absolument le contraire de la manière de tourner de Flaherty, c'est-à-dire que même dans un plan où des canaux vont à la mer, foncent, il y a l'air, l'eau, les canaux, des figurants amateurs, des figurants qui sont
des scènes incroyables de confusion, enfin tous les bateaux qui arrivent, qui partent...
Eh bien, chaque prise est absolument identique à la précédente, ce qui est exactement le contraire de ce que faisait Flaherty, qui tournait les choses qui l'intéressaient. Alors Flaherty, on est en octobre, novembre 29, dès le début du film, Flaherty tourne sur instruction de Murnau. Flaherty n'est jamais le réalisateur. Après ça, après la débâcle de Color Art, qui de toute façon au départ n'était pas très très solide, après la débâcle de Color Art, le film continue avec l'argent de Murnau, et nominalement, Murnau dit, nous faisons le film à deux. Mais on sait très bien que sur un plateau, c'est quelqu'un qui donne les ordres, et Flaherty est plus lent, il est plus contemplatif, il fonctionne d'une autre manière. Et Murnau continue de faire le film. À ce moment-là, pour échapper au copyright de Color Art, et aussi parce qu'il en a plus envie, on passe du scénario de Touria à celui de Tabou. Et petit à petit, en janvier, Floyd Crosby, qui était l'opérateur de Flaherty au Nouveau-Mexique, arrive, commence à tourner. Donc, il tourne parfois à deux équipes avec Flaherty. Et petit à petit, Flaherty s'aperçoit que c'est pas du tout... Il a mis longtemps à s'en apercevoir, mais il s'aperçoit que c'est pas du tout ni sa manière de tourner, ni son film. Et il se retire, il s'occupe essentiellement du travail de laboratoire. L'équipe de...
Ils ont installé un laboratoire sur place. Enfin, l'équipe, en récupérant...
L'équipe d'Ombre Blanche avait laissé beaucoup de matériel que les frères Bainbridge, qui sont des locaux un peu des notables du lieu, avaient racheté, avaient récupéré. Et à ce moment-là, Flaherty donc devient, passe sous sa tente, que la tente étant en fait le laboratoire où il développe, et commence à devenir très amer à l'égard de Murnau, écrit des lettres à sa femme qui est en Allemagne en lui disant « Comme tu as raison, les Allemands sont tous pareils, et le pire de tous, c'est Murnau, etc. etc. » Donc le film a toujours été un film de Murnau, et à un moment, Murnau rachète les parts de Flaherty avec ce qui lui reste d'argent, avec quelques traites, et le film se termine vers août, tournage vers août, et Murnau monte sur place jusqu'à la fin de l'année, je pense, ou avant ce que je disais, son retour. Je me trompe.
Jusqu'en novembre, oui, parce qu'il prend le bateau en novembre pour rentrer à San Francisco.
Alors il rentre en Californie avec ses bobines sous le bras, il faut le terminer, la Paramount finit par mettre de l'argent dedans, on va faire cette musique de Hugo Riesenfeld, qui était le compositeur de l'Aurore, que je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Je trouve qu'on évite la folklorisation du film qui était prévu avec des musiques locales à l'époque, ça donne une dimension tout à fait universelle, moi je trouve, à ce film qui s'est
s'inscrit dans la façon de faire de la musique à l'époque. On fait un peu du pot-pourri de toutes les musiques occidentales. Un peu, on souligne par des effets sonores parce que il faut faire passer le film pour un film sonore, ce qu'il n'est pas. C'est vrai qu'à le regarder sans musique, c'est absolument extraordinaire parce que là, on est dans toute la mise en scène de Murnau, la façon de faire apparaître des fantômes. On ne sait jamais si le prêtre qui apparaît dans l'encadrement de la porte de la hutte est une vision une hallucination presque de l'héroïne ou vraiment une menace tangible. Il y a une façon de montrer le processus de pensée même par les surimpressions. On est voilà dans le grand déploiement du génie de Murnau, Yves de Peretti.
Mais ils avaient fait des enregistrements d'ailleurs sur place. Il y avait des enregistrements, c'est-à-dire que d'ailleurs Murnau n'a jamais caché que dès le début l'arrivée du sonore, qu'il s'intéressait au sonore. Et d'ailleurs Tabou devait être à l'origine avec Color Art un film en couleur. Et sonore. Et puis petit à petit, c'est les problèmes financiers qui ont fait que ça s'est réduit et que Murnau est resté sur son rêve. C'est-à-dire Murnau était quelqu'un qui maîtrisait, qui avait tellement le cinéma dans la tête d'une certaine manière, qu'il pouvait faire le film soit avec des gros moyens, avec des moyens hollywoodiens, hein, soit avec très peu. Et c'est ce qui s'est passé parce que effectivement l'aventure de Tabou sur le plan du tournage, vous avez dit. Flaherty avait des problèmes avec sa caméra, parce que c'était pas un...
Il savait pas trop la réparer.
Il savait pas la réparer, c'était pas un génie de la technique. Arrive Crosby, qui avait été, effectivement, son assistant caméraman sur un coma, et qui, lui, arrive avec sa caméra et complètement à l'aise, et rentre dans le projet de Murnau. Et d'ailleurs, il dira qu'il a fait le film avec des bouts de pellicule qu'il recevait. Quelquefois, dans la même bobine, il y avait des collures, et il mélangeait, il y a, je crois, 4 ou 5 types de pellicules différentes qui ont été faites. Pour vous dire, le bricolage, et d'ailleurs, il raconte une anecdote qui est intéressante. Il disait, Murnau lui a dit à la fin du film, avec ce film-là, tu pourras aller n'importe où dans les studios, tu trouveras du boulot. Et effectivement, il a eu l'Oscar avec le film.
Tiria tam pro mato han hari yo hobut miti yo yo pari mea mirno aro tainu
eh ti me mare ti ma o fai ti pari yo e me roa ha
hiera mere hia mitrahoa hamani hia mai aro mitrahoa me tupuno ho e proro ti te mo tata pete te tupura ona ti te teme. Te mi te o fai, te tupura ona.
C'est très beau d'entendre le nom de Murnau au milieu de paroles tahitiennes, parce qu'il faut raconter ce tournage de Tabou et la mort de Tabou de Murnau. Je l'ai dit tout à l'heure, une semaine avant la première. Ce tournage, c'est quasiment la malédiction de Toutankhamon. Yves de Peretti, vous avez tourné vous-même. Vous êtes assez explorateur. Vous êtes allé en terre Jivaro notamment, et vous étiez allé voir et filmer en 1996 ce qu'il restait de cette aventure sur les îles sous le vent et sur les îles du vent. C'est Tabou Dernier Voyage, documentaire qu'on retrouve parmi les bonus de l'édition DVD Blu-ray de Tabou chez Potemkin. Comme on l'entend dans cet extrait où il y a une femme qui raconte que ce rocher un peu étrange qui continue à pousser, on l'appelle Paris Murnau, la roche de Murnau, la mémoire de Murnau, en tout cas il y a 20 ans, c'est-à-dire 60 ans après le tournage, était encore très vive à Bora Bora.
Alors là, c'est pas à Bora Bora, c'est à Tahiti.
C'est à Tahiti. Oui, à Bora Bora et à Tahiti. Voilà. En fait,
le
vous
tournage
êtes dans les deux,
s'est fait en partie à Bora Bora, mais ensuite à Tahiti, qui représente d'ailleurs tout ce qui est censé être un atoll des Tuamotu, est tourné en fait à Tahiti. Et Murnau a un projet, c'est-à-dire que Tabou, c'est un projet de vie d'une certaine manière. Enfin, la Murnau Flaherty Production, c'était une sorte de rêve d'échapper et de s'installer ailleurs. C'était pas faire un film et revenir à Hollywood, c'était partir. Il y avait l'idée d'aller vers Bali plus tard.
Ça s'appelle le yacht d'ailleurs de Murnau, Bali.
Voilà. C'était le nom du yacht et qui était l'endroit où habitait quelqu'un qui avait été un amant très 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 important dans la vie de Murnau
et
Walter Spiess, et donc avec qui il était resté comme ça lié, et donc il voulait les rejoindre. Donc il y avait ce projet là. Il s'est arrêté à Tahiti, mais à Tahiti il a trouvé un univers qui lui plaisait, d'une part parce que effectivement c'était un endroit dans lequel l'homosexualité n'était pas vue de travers, c'était complètement intégré à la société, donc il s'est trouvé d'une certaine manière à l'aise. Même si c'était quelqu'un de, je crois, enfin d'après les témoignages, extrêmement réservé, extrêmement secret, qui manifestait pas beaucoup, qui était pas un homosexuel démonstratif, on va dire, comme on pourrait dire aujourd'hui. Enfin, c'était quelqu'un de
réservé, on dira.
Voilà. Et donc, mais il a trouvé un lieu qui lui correspondait, et à partir de là, il a essayé de construire une maison. Ce qui a un peu agacé les autres, parce que Flaherty n'était pas bien logé, mais lui a mis l'argent de la régie, comme il était devenu le producteur du film, il a mis de l'argent pour se construire une immense maison polynésienne, donc en palme, et où il n'y avait qu'une chambre.
Une très grande chambre, manifestement, avec un très grand lit. Mais il l'a construit pas n'importe où, et c'est là que ça commence à poser problème.
Voilà, alors il a construit dans un endroit où il y avait, sur le site d'un ancien marae, qui sont les temples de l'ancienne religion polynésienne. Et il y a cette tradition toujours vivace, quand j'y étais il y a 20 ans, qu'il y a des endroits qui sont tabous, les endroits où il y a eu des temples, où il y a eu des sacrifices humains, on ne construit pas. Et Murnau, évidemment, n'était pas sensible. Sa vision du tabou était différente. Il n'était pas sensible à la superstition telle que lui imaginait être une superstition telle que le percevaient les Polynésiens. Et donc, ça lui posait pas de problème. Il aimait bien, je crois, qu'il y avait ce côté, quelque part, il me semble que ça lui plaisait de jouer avec ça.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement superstitieux. Murnau, il sait quand même ce que c'est que d'enfreindre un interdit. Même il va tourner aussi des scènes sur un îlot sur lequel on n'est pas censé mettre le pied. Et c'est là que la légende commence, assez entretenue d'ailleurs par l'auteur Eisner, qui était sa biographe, des incidents mystérieux, des caméras qui tombent, des incendies. Enfin, tout d'un coup, les esprits se déchaînent, dans la légende en tout cas du tournage.
Oui, alors là, il y a une part d'exagération qui a été notamment mise en scène par les journaux populaires allemands qu'on bâtit. J'avais retrouvé des revues de l'époque qui faisaient une sorte de feuilleton comme ça sur les tabous. Enfin, qui étaient des choses qui avaient été extrêmement exagérées par rapport à la réalité. Bon, il y a eu un accident qui était un accident avec une torche qui s'est enflammée, avec un assistant qui a été brûlé. À Bora Bora, dans un endroit où il n'y avait pas d'hôpitaux, donc il a fallu l'emmener ailleurs. Et Crosby, d'ailleurs, s'en occupait, reprochait à Murnau d'être un peu indifférent à ça. Enfin bon, bref, il y a tout ça, mais c'était pas complètement énorme. Ce qui a donné, effectivement, le point culminant, c'est la mort de Murnau, alors qu'effectivement, des gens lui avaient dit, notamment des...
Voyantes.
Une voyante, mais aussi des grands prêtres là-bas, lui avaient dit, tu vas payer pour avoir enfreint ce tabou. Donc c'est a posteriori qu'effectivement, s'est bâti la légende.
No puitu puna. Puis dans Tabou, il y a un personnage tout aussi extraordinaire, légendaire, c'est Réri, Anna Chevalier de son vrai nom, c'est la star du film. Alors elle n'est pas de Bora Bora, elle vient de Tahiti, son père est français, c'est Murnau qui la baptise de son troisième prénom, hein, Réri, et puis c'est presque trop beau pour être vrai, puisque en tahitien, Réri, ça veut dire étoile du sud, c'est donc la star qu'il a trouvée sur place. Yves de Peretti, vous avez raconté dans un article de Trafic qui était paru en 1999 et qui est repris dans le livret de cette édition DVD Blu-ray de Tabou, la destinée assez étonnante, très émouvante aussi, assez tragique, de celle qu'on appelait la danseuse cannibale.
Oui, parce que en faisant le film là-bas, j'avais rencontré sa famille. J'étais tombé d'ailleurs sur un magnifique album qui avait été fait avec des photos absolument superbes. Je montre un peu dans le film. Et puis j'avais rencontré ses nièces et qui m'avaient montré les albums de photos où j'avais découvert toute cette vie post, enfin qui avait suivi le film, où effectivement Florence Ziegfeld l'avait fait venir pour Les Folies. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais elle avait fait un spectacle ou deux. Elle avait un agent là-bas, Mildred Lomber, qui s'était occupé d'elle, et elle a un peu erré entre les États-Unis et l'Europe. Elle est allée, c'est-à-dire que
elle est quasiment adoptée par la famille de Murnau.
Elle est adoptée, c'est-à-dire que le frère de Murnau va en Polynésie et la ramène là-bas, et elle a des rapports extrêmement tendres et familiaux avec la mère de Murnau. Et c'est très étonnant, enfin qui est une sorte de mère adoptive, hein, et coutume qui est très répandue en Polynésie. On se choisit un père ou une mère adoptive très facilement. À un moment donné, on quitte ses parents, il y a une sorte de liberté par rapport à ça. Donc c'est elle rajoute à son nom Murnau. À un moment donné, donc elle fait partie réellement de la famille.
Elle va faire le bonheur des nuits berlinoises au début du nazisme, c'est aussi très étonnant.
Alors il y a effectivement des choses étranges, on a même dit, enfin j'ai trouvé des allusions qu'elle aurait beaucoup plu à un certain Adolf Hitler avant qu'il soit le chancelier du Reich. Mais donc il y a quand même des elle fascinait, il y avait une fascination à l'époque pour ce type de musique et de danse indigène, entre guillemets, hein. Il y avait un goût pour ça qui était le goût de l'époque.
Et Bernard Eisenschitz, hein.
Bah oui, l'orientalisme allemand est très fort après la guerre, après 18. Bon, les légendes qui se tissent autour sont une chose, mais il est certain, il y a beaucoup de films qui se passent en Inde, à commencer par Le Tombeau hindou, première version, et des films d'exploration, des films autour du monde qui mettent l'accent sur l'Asie, ou sur les continents, ou sur la Polynésie, sur Samoa, des choses comme ça. Bon, le cinéma allemand, bon, et la culture allemande sont fascinés par ça. Hans-Heinz Evers écrit des livres de voyage. Donc, évidemment, l'érotisme de Réri fascine. Bon, à partir de là, pour moi, c'est un petit peu quand même l'histoire de tant de personnes découvertes par le cinéma, et puis ensuite complètement mises de côté, oubliées, et puis qui essayent de survivre avec leur talent de danseuse assez médiocre, ou la possibilité de faire ceci ou cela, et qui se termine pour Réri avec un rôle où elle n'est pas reconnaissable dans un film de Ford.
Oui, elle joue dans Hurricane. Auparavant, elle aurait joué dans un film polonais avec son mari, un prince polonais. C'est une histoire quand même assez étonnante, parce que c'est pas une histoire si anecdotique que ça. Vous dites, Yves de Peretti, dans votre article de Trafic, qu'on se demande si cette histoire n'aurait pas inspiré un certain Joseph Mankiewicz pour écrire La Comtesse Opinu. Je vois des haussements de sourcils, mais à l'époque, ça fait polémique, puisque l'histoire de Réri est fait l'objet d'un livre écrit par son agente, justement, Mildred Lubert, The Dancing Cannibal, qui va attaquer Mankiewicz au moment de son film en disant plagiat.
Oui, il a eu plusieurs procès. Effectivement, rien ne peut être complètement prouvé. Il y avait simplement des similitudes troublantes que j'ai relevées dans cet article-là. Enfin, il y avait des tas de choses qui faisaient penser, et même le problème qu'avait Réri avec les chaussures. Le fait qu'elle était réellement pieds nus et qu'elle avait épousé un comte, vous voyez, comte, comtesse. Enfin, il y a des tas de hasards comme ça, scénaristiques. Bon, Mankiewicz, c'était un habile un habile scénariste, donc il a peut-être pris quelque part des choses et il a aussi inventé, il en a inventé beaucoup, mais il y a comme ça des réminiscences que je m'étais amusé à tisser effectivement dans ce texte.
Michel Simon, Mankiewicz vous a fait des confidences quand il a coupé le micro de vos interviews.
Non, je pense que c'est anecdotique, c'est possible, c'est tout à fait possible. Non, moi ce qui m'intéresse c'est ce que vous dites sur le ce que Bernard Schulz parlait de l'orientalisme et du goût des Allemands pour, mais qui se retrouve dans le nazisme mais de façon très compliquée, parce que par exemple Hitler évidemment au moment des Jeux Olympiques de Berlin proteste, Jesse Owens etc. il attaque les athlètes noirs, mais en même temps Leni Riefenstahl va en Afrique photographier plus tard les Nubas de Kao dans lequel il y a une pureté finalement, une pureté du sang. Et d'ailleurs dans Tabou les Polynésiens aussi. Bon, elle avait un père qui était occidental, mais néanmoins, Murnau cite dans ses lettres que c'est des gens qui sont absolument purs. Et Romer, dans son texte « Défense de l'Occident », s'attaque à la barbarie et dit « Mais attention, Tabou, c'est pas du tout barbare, car sous leur peau bronzée, c'est le sang blanc que fait couler Murnau dans les veines de ces Polynésiens », c'est-à-dire qu'ils revendiquent la pureté polynésienne. Et voilà. Et alors que la barbarie, c'est Gauguin, il a inoculé le virus, Gauguin, c'est horrible, c'est le début de la culpabilisation de l'homme blanc, etc. C'est pas ça. Romer revendique cette défense de l'Occident avec ses idées politiques que l'on connaît.
Bernard Eisenschitz.
Ces idées politiques que l'on connaît de Romer ont été quelque peu amendées par la biographie qui est parue. Mais en tout cas, c'était le seul cinéaste, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de défenseurs de Murnau, en dehors de Romer et de quelques autres, Astruc par exemple, et à qui en général on préférait des gens comme Pabst, etc. Ça a duré assez longtemps, Pabst était considéré quand même comme un homme de gauche qui avait peut-être failli, mais quand même, alors que Romer, bon. Par ailleurs, bon, Murnau effectivement croyait à l'opinion qui était dominante à l'époque, c'est-à-dire que les Polynésiens étaient d'origine occidentale. Donc ça, effectivement, de ce côté-là, Murnau avait cette théorie qui était généralisée à l'époque, qui a été ensuite modifiée avec, par exemple, en 1947, avec Thor Heyerdahl, qui voulait, navigateur solitaire, qui voulait prouver que en fait, les Polynésiens étaient
avec
arrivés.
Le Kon-Tiki.
Voilà, c'est ça, avec le Kon-Tiki, et puis. Voilà. Donc, en effet, cette question de la race blanche était quelque chose qui était Murnau allait dans le sens d'un voisinage de quelque chose. Nous sommes les mêmes, comme le voyage en Grèce ou le voyage en Italie pour les Allemands était. Nous allons aux racines de notre culture.
Et d'un paradis perdu.
Et du paradis perdu de Hugo Riesenfeld.
Thank you.
On a beaucoup parlé de Murnau, évidemment, mais il ne faudrait pas qu'on oublie complètement Flaherty. Flaherty va faire des films après cette aventure malheureuse pour lui de Tabou. Il est question qu'il fasse un film en URSS, ça ne se fera pas, mais il fera ce film extraordinaire qui s'appelle L'Homme d'Aran, produit par John Grierson en Irlande. John Grierson, l'homme qui avait inventé le terme documentaire, d'ailleurs, en parlant d'un film de Flaherty. Vous dites, Yves de Peretti, que pour vous, L'Homme d'Aran, c'est le film où on sent le plus l'influence de Murnau. Alors là, il faut quand même argumenter, parce que le cinéma de Flaherty et de Murnau reste quand même extrêmement différent.
Mais je pense que faut revenir à l'origine de leur rencontre. Les deux avaient vraiment quelque chose à attendre de l'autre, et il y avait quelque chose de complémentaire. Ça n'a pas fonctionné. Encore que, on peut se demander, parce que qu'est-ce qu'aurait été Tabou sans... Enfin, probablement, il n'y aurait pas eu Tabou sans Flaherty. Donc il y a quelque chose, même si c'est un film qui est dirigé, directed by Murnau, ça on est d'accord là-dessus, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois qu'ils étaient aux deux opposés, et il y a quelque chose de très intéressant dans cette rencontre-là. Murnau voulant sortir de ce qu'il savait faire et aller vers l'autre, et ayant un problème personnel, on a parlé tout à l'heure de son nom, Plumpe, qui avait une connotation balourd en allemand. Donc il avait du mal à aller vers l'autre, et donc Flaherty avait ce truc, on va dire, du documentariste, de quelqu'un qui a cette facilité de contact et qui arrive à travers les gens à raconter des histoires. C'est un grand raconteur d'histoires. Flaherty enviait Murnau par sa maîtrise, par ce sens instantané du cadre, du découpage, de la mise en scène du plan et de la maîtrise, en fait. Donc il y avait chez les deux un désir réciproque de l'autre, vraiment, qui était spontané. Et je pense que c'est pour ça que L'Homme d'Aran, qui est pour moi mon film préféré de Flaherty, je pense qu'il y a quelque chose qui vient aussi, même si c'est pas, ça ressemble pas à un film de, ça ressemble pas à Tabou, bien sûr, mais il y a quelque chose qui vient de cette rencontre au sommet, si je puis dire, de deux grands cinéastes, qui a tout d'un coup dopé les deux.
Et il faudra le voir, et s'il y a des conséquences aussi dans les films suivants de Flaherty, des films extraordinaires comme The Land ou Louisiana Story.
Non, c'est pas rien pour toi.
Pas du tout.
T'es trop canaille. T'écoute pas ta mère et moi non plus.
Puis ça.
C'est pour toi. Une petite pompe ici.
Une pompe. Je t'amène pompe.
Tu veux la voir?
Ouais.
Comment t'aimes ça?
Ah, c'est beau. Pour moi, ça?
Je sais pas, tu crois que c'est pour toi?
Ouais.
Tiens.
Pour moi, vrai, ça?
Oui.
Vrai, c'est pour moi?
Oui, c'est pour toi.
Ah, ça, c'est beau.
Fini tout neuf.
Ouais, fini tout neuf. Ça, c'est bien beau.
Là, voilà, bas, va dans la cour.
Vas-y. Parlez, tirez. Merci pour.
Oui, va là-bas.
Merci Bernard Eisenschitz, merci Yves de Peretti d'être venu nous parler de Tabou aujourd'hui dans Plan Large sur France Culture. On vous retrouve tous les deux dans la très belle édition DVD Blu-ray du film de Murnau et aussi un peu quand même de Flaherty. Donc c'est édité par Potemkin. J'en profite également pour signaler la parution d'une étude sur l'aurore signée du critique italien Piero Spilla chez une nouvelle maison d'édition, nouvelle en tout cas en France, Grémézé, maison spécialisée en France, donc maintenant dans la littérature cinématographique transalpine. Quant au film de Flaherty, Nanook l'Esquimau, L'Homme d'Aran, The Land et Louisiana Story, dont on vient d'entendre un extrait dans ce merveilleux Cajun, on les retrouve en coffret aux éditions Montparnasse. On continue, comme de nombreuses émissions de France Culture, donc jusqu'au 31 décembre, notre thématique explorateur avec vous, Michel Simon, dans la jungle des parutions automnales. Je crois bien que vous nous avez rapporté une très grosse bête.
And now I want to introduce Miss Anne Darrell. The bravest girl I have ever known. There the beast and here the beauty. She has lived through an experience no other woman ever dreamed of. and she was saved from the very grasp of Kong by her future husband. I want you to meet a very brave gentleman, Mr. John Driscoll. And now, before I tell you the full story of our voyage, I'm going to ask the gentlemen of the press to come forward so that the audience may have the privilege of seeing them take the first photographs of Kong and his captors. All right, boys. Miss Carroll first alone. Stand in front of the camera. All set, Jack?
Okay.
Make it a good one. Shoot.
Grosse impression évidemment chez les spectateurs de la salle où l'équipe menée par le réalisateur Carl Denham et sa vedette Anne Darrow dévoilent le gorille de 9 mètres de haut qu'ils ont ramené de Skull Island. Grosse impression aussi chez les spectateurs de 1933 à nos jours quand ils découvrent King Kong. Mais l'histoire de ces réalisateurs Marian C. Cooper et Ernest B. Schoetzack qui de la Première Guerre mondiale jusqu'aux prémices de la Seconde mène à ce chef-d'œuvre du cinéma est tout aussi impressionnante. Elle a fait l'objet d'un des grands romans de la rentrée littéraire de cet automne, un roman passé bizarrement inaperçu, sans doute et paradoxalement à cause de sa taille, tout aussi imposante que les 9 mètres du roi Kong, plus de 900 pages pour ce Kong, signé Michel Lebris chez Grasset et que vous avez pourtant dévoré d'un bel appétit, Michel Simon.
Oui, c'est un formidable livre. Il appartient au genre du roman historique. Alors on sait effectivement que Michel Lebris a déjà publié énormément de livres. C'est un grand spécialiste de Stevenson. Il a créé les étonnants voyageurs à Saint-Malo et qu'il est passionné par cette littérature B qui maintenant est dans la Pléiade. Parce qu'il très longtemps, on n'aurait pas imaginé que Jack London, que Stevenson entrent dans la Pléiade. Il y a encore 40 ans, c'était inimaginable. Donc cette littérature réservée aux enfants, comme Kipling, comme d'autres, peut-être pas Conrad, mais Conrad appartient aussi à ce type de romanesque. Aujourd'hui, c'est reconnu, mais néanmoins, ce qui est passionnant dans son roman, c'est qu'effectivement, on retrouve le souffle d'un Dumas ou d'un Hugo. C'est-à-dire que c'est très basé énormément sur des faits réels. Il y a une bibliographie imposante. Il a mis 8 ans à écrire ce livre. Et c'est effectivement l'épopée de ces deux personnages tout à fait extraordinaires, que sont Ernest B. Schoetzack et Miriam Cooper, qui ont créé King Kong. Et on le savait, mais sous cette forme romanesque, c'est des gens qui ont vécu le XXe siècle. Ils ont fait la guerre de 14. En particulier, Miriam Cooper a été dans l'aviation. Il était pilote d'avion. Il a lutté avec les Polonais contre les bolcheviques. Il y a une autre personne qui est Marguerite Hamilton, qui elle-même a été en prison pendant l'Union soviétique, et elle a connu ensuite Cooper. Et ce trio, un peu Jules et Jim, se retrouve dans des tas d'aventures. Ils ont été avec Haïlé Sélassié en Éthiopie, ils ont vu les massacres de Smyrne avec Atatürk en Turquie, ils sont allés dans des contrées très lointaines pour tourner des films dont je vais parler, 2 documentaires. Et donc, d'une certaine façon, King Kong est un peu le résultat de cela. L'équipe de tournage qui vient dans cette île au début, c'est quasiment autobiographique, c'est-à-dire qu'ils vont voir des contrées perdues. Donc c'est une histoire absolument extraordinaire. Ils ont également produit Les Chasses du comte Zaroff. Donc, tout cela...
Qui a été tourné le jour, et selon la légende, le jour, dans les mêmes décors, on tournait la chasse du comte Zaroff, et voilà. La nuit, on tournait King Kong.
Voilà, donc ça va de 1918, ils se rencontrent à Vienne tous les deux à la fin de la guerre, ils se retrouvent à Londres, le roman passe d'un continent à l'autre, on est dans des pays absolument exotiques, et voilà, ça se termine en 1933, juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et qui est la première mondiale à New York de King Kong.
Alors que recherchent-ils ces deux réalisateurs quand ils tournent un peu partout? Parce que ce que raconte Michel Lebris, c'est qu'en gros, ils finissent par le trouver sous la fiction avec King Kong, cette force sauvage extrêmement noire, brute, comme ça, qu'ils sont allés chercher un peu partout dans le monde suite à la Première Guerre mondiale.
Ben, ils cherchent, et c'est un peu comme Flaherty, c'est-à-dire qu'ils cherchent, ils recherchent l'authenticité, ils recherchent là une sorte de vérité documentaire mêlée de fiction. Et c'est ce qui apparaît dans les deux grands films documentaire des années 20 qu'ils ont co-signé. D'abord, Grass, qui a été tourné en Irak et en Iran. C'est la migration, c'est un sujet très, très d'aujourd'hui, la migration de 50 000 Kurdes qui passent de l'Irak qui passe de l'Iran à l'Irak avec 500 000 animaux. Et donc, il filme dans des conditions hallucinantes. Ça a duré pendant plusieurs mois, même presque un an. Il filme Grass, qui est en 1925 un événement énorme. C'est le plus gros succès de l'année aux États-Unis. Il a battu les films de fiction. Et deux ans plus tard, il filme Chang. Alors là, c'est un peu inspiré par Nanook, l'Esquimau, justement, de Flaherty. C'est-à-dire qu'il tourne dans le Siam, aujourd'hui la Thaïlande, la vie d'une famille qui ont adopté un éléphant, qui est en butte aux attaques des hordes d'éléphants qui viennent détruire des villages, et surtout des tigres qui se satisfont avec de la chair humaine. Donc Chang, c'est encore un film tout à fait, peut-être moins pur que Grass, mais néanmoins un film tout à fait passionnant.
Vous les avez vus, ces films, Yves de Peretti, Bernard Eisenschitz?
Oui, c'est magnifique. Ce sont des films magnifiques. D'une part, effectivement, on voit que ce sont des films qui mènent à King Kong, et en même temps, ce sont des chefs-d'œuvre par eux-mêmes. La transhumance annuelle des Bakhtiari de l'Irak en Iran, en attendant, en sachant que c'est quelque chose qui va tourner, c'est splendide. Et Chang, moi j'aime beaucoup l'intervention de la fiction dans Chang, en fait, parce qu'en effet il y a des personnages, il y a plus Madame Margaret, je ne sais plus quoi, et mais
Hamilton,
il y a
Hamilton, Hamilton, comme voilà, comme Lady Hamilton,
un peu comme la sorcière de la méchante sorcière du magicien d'Oz. Mais en revanche, il y a des personnages, il y a une histoire, il y a une charge d'éléphant pour laquelle l'écran s'ouvrait, l'écran se démultipliait. Ça a été une des grandes impressions d'Orson Welles jeune, voir l'écran qui tout à coup s'ouvrait sur quelque chose. C'était aussi fort que Napoléon.
Michel Simon.
Et il faut dire que
Le saut du tigre dont on leur expliquait qu'il sautait jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Ils avaient construit la caméra, c'est ça? Bon, pardon.
Non, il faut dire aussi que la vie de Marianne Cooper continue à être passionnante, puisqu'il va créer avec John Ford Argosy Pictures et certains des plus grands films de John Ford, Mardiling Clementine, Rio Grande, Le Convoi des Braves et La Prisonnière du Désert ont été produits par Marianne Cooper, qui a également été responsable de VC Cinerama et qui a créé la Panam aussi, la compagnie d'aviation. Donc c'est un personnage absolument fabuleux, et je trouve que Michel Lebris, dans son roman, fait passer effectivement ce souffle des aventuriers, des gens absolument plus grands que nature.
Merci Michel Simon. Kong de Michel Lebris est publié chez Grasset. Quant à Grass et Chang de Cooper et Schoedsack, c'est en DVD au film du Paradoxe. Et puis King Kong, le film, le seul, le vrai, celui de 1933, c'est à voir et à revoir en DVD et en Blu-ray chez Warner. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Myriam Guillot. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan Large finira l'année avec un des piliers du temple hollywoodien, dont certains des plus beaux films, vous venez de le dire, Michel Simon, ont été produits par Marianne C. Cooper. Il s'agit bien sûr de John Ford. Nous serons avec la professeure de philosophie et chercheuse en cinéma Cécile Gornet pour sa très stimulante étude, l'écriture de l'histoire au miroir du cinéma, les westerns de John Ford. Quant à Charlotte Garçon, elle soufflera in extremis les 50 bougies des demoiselles de Rochefort. Joyeux Noël à toutes et à tous. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.